Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge. Il y a quelques années, très peu de temps d'ailleurs, la Comédie Française inscrivait à son programme un spectacle inhabituel qui mettait en scène des fables de La Fontaine. Au départ, l'idée m'avait semblé un peu bizarre. Je m'étais dit, tiens, mettre en scène, sur une scène de théâtre plutôt, des fables de La Fontaine. Et puis, en allant voir le spectacle, je me suis rendu compte que c'est eux qui finalement avaient raison. Parce que La Fontaine a écrit des fables qui sont tellement vivantes, tellement animées, tellement, pour certaines, théâtrales, qu'elles avaient tout à fait leur place sur la scène de la Comédie Française. Alors, je vous propose aujourd'hui de réécouter quelques-unes de ces fables. Certaines sont très connues, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. On va commencer peut-être par la plus célèbre, La Cigale et la Fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt est principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud » dit-elle à cette emprunteuse. « Ah, nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. »« Vous chantiez ? » ?»« Oh, j'en suis fort aise. » »« Eh bien, dansez maintenant. » Encore une fable parmi les plus connues de Jean de La Fontaine. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Et bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. À présent, après vous avoir rappelé que Jean de La Fontaine est né en 1621 à Château-Thierry, voici une de ses fables moins connues sans doute que les deux précédentes. Deux chats qui descendaient du fameux Rodilard, et dignes tous les deux de leur noble origine, différaient d'embonpoint. L'un était gras à l'art, c'était l'aîné. Sous son hermine d'un chanoine, il avait la mine, tant il était dodelu, potelé, frais et beau. Le cadet n'avait que la peau collée à sa tranchante épine. Cependant, ce cadet, du matin jusqu'au soir, de la cave à gouttière, trotter, courir, il fallait voir, sans en faire meilleure chair. Enfin, un jour, au désespoir, il tint ses discours à son frère. Explique-moi par quel moyen, passant ta vie à ne rien faire, moi, travaillant toujours, on te nourrit si bien et moi, si mal. La chose est claire, lui répondit l'aîné. Tu cours tout le logis pour manger, rarement quelques maigres souris. N'est-ce pas mon devoir ? D'accord, cela peut être, mais moi, je reste auprès du maître. Je sais l'amuser par mes tours, admis à ses repas sans qu'il me réprimande. Je prends de bons morceaux, et puis je les demande en faisant pâte de velours. Tandis que toi, pauvre imbécile, tu ne sais rien que le servir. Va. Le secret de réussir, c'est d'être adroit, non d'être utile. Et je vous assure que cette fable n'a pas été écrite en période préélectorale. Voici à présent une autre fable, également un peu moins connue que d'autres. Le jeune homme et le vieillard. De grâce, apprenez-moi comment l'on fait fortune, demandait à son père un jeune ambitieux. Il est, dit le vieillard, un chemin glorieux, c'est de se rendre utile à la cause commune, de prodiguer ses jours, ses veilles, ses talents au service de la patrie. Oh ! Trop pénible cette vue. Je veux des moyens moins brillants. Il en est de plus sûr. L'intrigue, elle est trop vile. Sans vice et sans travail, je voudrais m'enrichir. Eh bien, sois un simple imbécile. J'en ai vu beaucoup réussir. Encore une fois, ça n'a pas été écrit en période préélectorale. Et avant de prendre une pause, une fable, elle, très connue, le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents, un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup, creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Nous allons retrouver La Fontaine, qui a été un des protégés de Nicolas Fouquet, le superintendant de Louis XIV. Et on a dit que, par rapport à la carrière qu'il aurait pu faire, La Fontaine a été handicapé, mais il est toujours resté fidèle à son premier protecteur, Nicolas Fouquet. Je vous propose à présent une fable connue. La poule aux yeux d'or. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux pour le témoigner que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien, s'étant lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon pour des gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien a-t-on vu qui, du soir au matin, sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être riches. À présent, une fable est également très connue, le héron. Un jour, sur ses grands pieds, allait je ne sais où le héron au long bec emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière, l'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Macomère la carpe y faisait mille tours avec le brochet son compère. Le héron en eût fait aisément son profit. Tout s'approchait du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre, mais il crut mieux faire d'attendre qu'il eût un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Le mets ne lui plut pas, il s'attendait à mieux et montrait un goût dédaigneux qu'on me l'aura du bon Horace. « Moi, des tanches, dit-il, moi, héron, que je fasse une si pauvre chair, et pour qui me prend-on ? » La tanche rebutée trouva du goujon. « Ah, du goujon ! C'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec, oh Dieu ne plaise !» Il l'ouvrit pour bien moins. Tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit. Il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner, surtout quand vous avez à peu près votre compte. En répondant à cette fable, voici une morale inverse. Le renard et les raisins. Certains renards, gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim, vit du haut d'une treille des raisins mûrs apparemment et couverts d'une peau vermeille. Le galant en eût fait volontiers un repas, mais comme il n'y pouvait atteindre, ils sont trop verts, dit, et bons pour des goujats. Fût-il pas mieux que de se plaindre? Et maintenant, en parallèle avec la fable du héron que je vous rappelais tout à l'heure, la fable qui suit et qui est en fait la version, pourrait-on dire humaine, de la fable du héron, la fille. Certaines filles, un peu trop fières, prétendaient trouver un mari jeune, bien fait et beau, d'agréable manière. Point froid et point jaloux, notez ces deux points-ci. Cette fille voulait aussi qu'il eût du bien, de la naissance, de l'esprit, enfin tout. Mais qui peut tout avoir? Le destin se montra soigneux de la pourvoir. Il vint à des parties d'importance. La belle les trouva trop chétifs de moitié. Quoi? Moi? Quoi, ces gens-là? L'aura d'autre, je pense. À moi, les proposer, hélas. Ils font pitié, voyez un peu la belle espèce. L'un n'avait en l'esprit nulle délicatesse, l'autre avait le nez fait de cette façon-là, c'était ceci, c'était cela, c'était tout, car les précieuses font dessus tout les dédaigneuses. Après les bons partis, les médiocres gens vinrent se mettre sur les rangs. Elles de se moquer, ah, vraiment, je suis bonne de leur ouvrir la porte. Ils pensent que je suis fort en peine de ma personne. Grâce à Dieu, je passe les nuits sans chagrin, quoique en solitude. La belle se sucrait de tous ses sentiments. L'âge la fit déchoir, adieu, tous les amants, un an se passe et deux avec inquiétude. Le chagrin vient ensuite, elle sent chaque jour déloger quelques rires, quelques jeux, puis l'amour, puis ses traits choquer et déplaire, puis sans sorte de phare. Ses soins ne purent faire qu'elle échappa au temps cet insigne larron. Les ruines d'une maison se peuvent réparer, connaît cet avantage pour l'héroïne du visage. Sa préciosité change alors de langage. Son miroir lui disait « Prenez vite un mari ». Je ne sais quel désir le lui disait aussi. Le désir peut loger chez une précieuse. Celle-ci fit un choix qu'on n'aurait jamais cru, se trouvant à la fin tout aise et tout heureuse de rencontrer un malotru.
Thank you.
Nous avons quitté La Fontaine, qui, tout au long de sa vie, a mené une vie, une existence dont il disait lui-même qu'elle était partagée en deux parts, l'une à dormir et l'autre à ne rien faire. En réalité, La Fontaine était un travailleur acharné, et ses œuvres en témoignent, au point qu'il a été élu à l'Académie française en 1684, 11 ans avant sa mort. Ironie du sort, il a été enterré au cimetière des Saints-Innocents à Paris, le cimetière où d'ailleurs était enterré Molière. Ce cimetière a été détruit au moment de la Révolution et les corps de Molière et de La Fontaine ont été déposés au cimetière du Père-Lachaise, où on peut voir leurs deux tombes actuellement. Voici une fable courte. Ce sont parfois parmi les meilleurs. La montagne qui accouche. Une montagne en mal d'enfant jetait une clameur si haute que chacun, au bruit accourant, crut qu'elle accoucherait sans faute d'une cité plus grosse que Paris. Elle accoucha d'une souris. Quand je songe à cette fable dont le récit est menteur et le sens est véritable, je me figure un auteur qui dit « Je chanterai la guerre que firent les titans au maître du tonnerre ». C'est promettre beaucoup, mais qu'en sort-il souvent ? Du vent. Voici à présent une fable, souvent citée en partie d'ailleurs, « Les animaux malades de la peste ». Un mâle qui répand la terreur, mâle que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'envoyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie, ni loup ni renard n'épiait la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant plus de joie. Le lion tint conseil et dit « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie aux traits du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents ont fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, soyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force mouton. Que m'avait-il fait ? Nulle offense. Même, il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. « Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, mangez mouton, canaille, saute espèce, est-ce un péché? Non. Non, vous leur fit seigneur en les croquant, beaucoup d'honneur. Et quant au berger, L'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre ni de l'ours ni des autres puissances les moins pardonnables offenses. Tous les gens querellèrent jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit: j'ai souvenance qu'en un pré de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense, quelque diable aussi me poussant, je t'en dis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nu droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria « Aro !» sur le baudet. Un loup, quelque peu clair, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Voici une petite fable très, très connue. Le rat des villes et le rat des champs. Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs d'une façon fort civile à des reliefs d'ortolan. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis, je laisse en penser la vie que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête, rien ne marquait au festin, mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville déteint, son camarade le suit, le bruit cesse, on se retire. Rat en campagne aussitôt, et le citadin de dire « Achevons tout notre oraux ». « C'est assez, dit le rustique. Demain, vous viendrez chez moi, ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi, mais rien ne vient m'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc. Fi du plaisir que la crainte peut corrompre. »